13 mai dernier, c'était vendredi 13, mais la journée a porté chance à au moins quelques personnes, notamment les familles représentées par Parents jusqu'au bout. On fait un retour sur l'annonce faite vendredi dernier par les ministres Lucie Charlebois, Gaétan Barrette et Sébastien Proulx sur l'aide financière apportée aux parents d'enfants lourdement handicapés. Je joins au téléphone Mme Anouk Lanouette-Turgeon du mouvement Parents jusqu'au bout. Bonjour.
Bonjour.
Donc, c'est une bonne nouvelle qu'on a eue le 13 mai dernier. Est-ce que d'abord, vous pouvez nous faire un résumé de quelles étaient vos demandes auprès du gouvernement et ce qui a été répondu?
Ben, en fait, notre principale demande était d'obtenir l'équité avec les familles d'accueil. Parce que, bon, comme on sait, ou en tout cas, comme on répète depuis plus d'un an maintenant, c'est l'écart qui était pour nous inacceptable entre la situation d'une famille d'accueil qui va accueillir un enfant handicapé. Selon le niveau de soins requis par l'enfant, évidemment, il y a différentes lourdeurs de handicap, si on peut dire, mais une famille d'accueil pouvait recevoir jusqu'à 37 000 $ par année pour s'occuper d'un enfant, dans ce cas-là, très lourdement handicapé. Mm-hmm. Beaucoup de familles d'accueil ne reçoivent pas cette somme, évidemment, ça c'est le maximum. Mais donc nous, à la base, on reçoit des deux paliers, des deux ordres de gouvernement, on reçoit 4 000 quelques dollars. On reçoit aussi de l'aide par le CLSC qui peut être très, très variable selon les régions. Bref, en tout cas, le gouvernement a étudié vraiment la comparaison entre notre situation en tant que famille naturelle d'un enfant lourdement handicapé et les familles d'accueil. Ils ont produit un beau tableau dans lequel on a deux colonnes de chiffres. Vraiment, ça compare les deux situations. Et la nouvelle qui a été annoncé vendredi, c'est qu'en fait, ils veulent combler cet écart-là. Donc, vraiment, ça fait en sorte qu'on obtienne l'équité réellement avec ce qu'on appelle les familles d'accueil ou les ressources intermédiaires, les ressources de type familial.
Mm-hmm. Les chiffres qu'on a vus dans les médias jusqu'à présent parlent d'un écart qui est de l'ordre d'autour de 12 000 $.
Ouais.
On parle d'une moyenne et on parle aussi donc de... En fait, de montants d'argent non imposable et de services. Donc, il y a des familles qui vont recevoir différents montants.
Oui, bien, en fait, ça reste les modalités du programme ainsi que les critères d'admissibilité restent à connaître. Donc, nous, on n'a pas davantage d'informations que, effectivement, ce qui a déjà été diffusé dans les médias. En fait, vendredi, on a rencontré les ministres, donc, ils nous ont présenté la chose là, directement. Mais ça va rester à vérifier parce que nous, déjà, le tableau, je l'ai devant les yeux, là, il y a déjà certains montants dont je sais que les familles, reçoivent pas même ces montants-là, qu'on est déjà supposé recevoir. Donc, la première étape, ça serait au moins que les familles obtiennent ce qu'on est déjà supposé d'avoir.
Mm-hmm.
Après ça, on peut parler de combler l'écart, mais il faudrait commencer par le début. Parce que, bon, par exemple, dans le tableau, on dit que il y a un montant d'aide sociale qui est touché par les familles comme les nôtres pour contraintes temporaires à l'emploi. Aucune idée de quoi on parle. J'ai jamais eu droit à ça. Je connais aucune famille qui a eu droit à ça. Donc, on va, disons, faire quelques rectifications, premièrement, parce que si, justement, on enlève ce montant-là, ben tout d'un coup, l'aide qui nous sera accordée serait plutôt de l'ordre de 14 000 $ au lieu de 12 000. Donc, il y a certains montants dont il va falloir discuter ou en tout cas vraiment demander de quelle source ils tiennent cette information-là parce que nous, à notre connaissance, c'est pas les sommes qui sont répertoriées ici, on n'y a déjà pas droit, on n'a pas droit à tout, là. Donc, il faudrait commencer par s'assurer, ça serait ça la première étape, disons, s'assurer qu'on a accès à ça en premier.
Il y a effectivement des clarifications à amener au sein même du programme avant de regarder quelles seront les bonifications. On parle de critères d'admissibilité. Les détails ne sont pas encore connus, mais on parle vraiment d'enfants lourdement handicapés. Quels sont les spécialistes qui ont été consultés ou qui seront consultés pour établir les critères d'admissibilité?
En fait, nous, on n'a pas les noms là, des spécialistes, mais on sait que c'est des médecins, vraiment, des hôpitaux pédiatriques de Montréal, entre autres, là, donc Sainte-Justine et l'hôpital pour enfants, qui ont été mobilisés, qui ont été vraiment mandatés, consultés pour établir la définition. Donc, des médecins comme tels et aussi d'autres professionnels de la santé. Donc, c'est certain que ce n'est pas les fonctionnaires là, qui vont établir cette définition-là. C'est vraiment des médecins qui travaillent vraiment avec nos enfants, qui connaissent les situations de nos familles.
Mm-hmm.
Le libellé, en fait, le titre officiel là, du comité interministériel, c'était sur la situation des enfants qui présentent des incapacités très importantes ou qui sont gravement malades. Donc, c'est ça, parce que, bon, là, on a aussi des parents qui nous disent « Ah, mais si le handicap de mon enfant n'est pas visible, est-ce qu'il va être reconnu? » Bon, on ne peut pas répondre à toutes ces questions-là pour l'instant, mais ce qu'on peut dire, c'est que l'enfant va devoir présenter plusieurs incapacités, disons.
Mm-hmm.
Mais, disons, la déficience intellectuelle n'est pas une obligation, mais bon, ça peut en faire partie. Le fait d'être en fauteuil roulant n'est pas non plus une obligation, mais ça peut en faire partie. Bon, il va y avoir toute une série de critères, puis après, évidemment, il va y avoir des gens qui vont se sentir exclus, il va y avoir d'autres combats à mener peut-être pour une reconnaissance plus équitable de ces groupes-là aussi. Nous, on a commencé par la situation de nos familles à nous, parce que en se regroupant, nous, on avait certains points en commun, donc on a commencé les revendications pour ce petit groupe-là de familles, en ne nous doutant pas au départ de l'ampleur que le mouvement allait prendre. Là, vraiment, il y a des gens des parents d'enfants handicapés de toutes sortes de niveaux d'handicap qui comptent sur nous, mais on ne peut pas mener tous les combats en même temps, là, malheureusement.
Madame Lanouette-Turgeon, si vous permettez, j'aimerais qu'on prenne un exemple de votre famille pour illustrer un peu justement quel type d'enfant on vient, en fait, quel type de situation on vient soutenir. Vous avez, vous avez deux enfants, votre aîné et un garçon qui vit avec la trisomie 21 et votre fille est née avec une maladie très rare, une maladie orpheline qui donc occasionne beaucoup de soins de santé que vous devez lui promulguer. Et c'est particulièrement le cas de votre cadette, en fait, qu'on va venir soutenir.
Ben oui, c'est ça. Moi, selon mon évaluation à moi, mon premier enfant qui est atteint de trisomie 21 ne se qualifierait pas comme étant lourdement handicapé ou gravement malade. Là. C'est un enfant qui va très bien, qui a un retard global de développement, qui a une déficience intellectuelle, oui, et qui a des suivis supplémentaires quand même. À mon sens à moi, dans mon quotidien à moi, je considère pas que c'est très lourd. Mm-hmm. Par contre, ma fille, elle a vraiment une atteinte neurologique très grave qui fait qu'elle a à peu près aucun développement, à peu près aucun acquis au niveau moteur. C'est certain qu'elle va être en fauteuil adapté toute sa vie, qu'elle marchera pas, qu'elle parlera pas, elle est gavée, elle ne voit pas. Elle a une cécité corticale, en fait, là, donc on ne sait pas qu'est-ce qu'elle voit. Elle voit peut-être un peu, mais vraiment, elle ne réagit à rien là, au niveau visuel. Elle fait de l'épilepsie. Et c'est ça. Elle n'a aucune autonomie, puis rien ne nous laisse croire qu'elle va pouvoir en avoir la moindre. Mm-hmm. Donc, ça demande des soins quotidiens au niveau des gavages, entre autres, la surveillance des crises d'épilepsie, de tout ça, mais ça va demander aussi, chose qu'on n'a pas encore réussi à faire, une adaptation de domicile, de véhicule. Ça, c'est vraiment, c'est des dizaines de milliers de dollars. Là. Donc, c'est certain qu'on ne va pas y arriver tout seul. Là. C'est impossible, d'autant plus qu'évidemment, moi, je travaille beaucoup moins d'heures qu'avant. C'est ça, en fait, la situation de nos familles en général, c'est ça, c'est qu'on se retrouve avec des frais vraiment supplémentaires, considérables, en plus de devoir couper nos heures où beaucoup de parents doivent carrément abandonner leur emploi. Moi, j'ai réussi à le maintenir, mais à temps partiel. Donc, je fais, mettons, environ 15 000 $ de moins par année qu'avant. Et j'ai des frais que j'ai pas évalués là, précisément, mais qui sont vraiment supérieurs à ce que j'aurais pour un enfant régulier.
Tout à fait. Justement, dans notre entrevue du 30 mars, dans notre émission du 30 mars, on avait discuté ensemble de cette problématique, de cet enjeu important que lorsque les soins requis par un enfant imposent que l'un des parents abandonne son emploi, c'était souvent la mère qui cessait de travailler. Est-ce que la nouvelle mesure va aider les parents à ce niveau, au niveau de l'emploi?
Bien, au niveau de l'emploi, pas comme tel, en fait. La nouvelle mesure, ce que j'en comprends, c'est que ça va être des suppléments. C'est pas un nouveau programme qui est créé comme tel. Donc, on n'aura pas un nouveau chèque dans le cadre d'un nouveau programme. Ça va être des suppléments aux programmes qui existent déjà. Donc, par exemple, le supplément pour enfants handicapés, bon, on reçoit 189 $ par mois en ce moment. Donc là, quelle que soit la lourdeur du handicap de l'enfant, quel que soit le revenu familial. Donc, possiblement, on va recevoir plus. Bon, ça peut aussi être une augmentation des services. Parce que, par exemple, justement, le soutien à domicile, dans certaines régions, c'est zéro, là. C'est nul. Moi, j'ai eu la chance d'habiter dans un secteur, Villeray-Petite-Patrie, pour ne pas le nommer, où apparemment, le CLSC est un peu mieux nanti que dans d'autres endroits. Donc, moi, j'ai droit pour ma fille à 28 heures par semaine dans le cadre du programme le chèque emploi-service. Là. Bon. Mais je connais des familles qui ont des enfants aussi lourdement handicapés que ma fille, qui ont 4 heures de chèque emploi-service par semaine ou zéro. Donc ça, c'est pas acceptable, ça peut pas rester comme ça, là. Donc c'est certain qu'il faut d'abord commencer par équilibrer, entre autres, les services entre les régions, puis après voir effectivement combien ça va donner en aide financière. Parce que c'est ça aussi dont on a besoin. On n'a pas juste besoin de gens qui viennent nous aider à domicile. Bon, oui, là, mais c'est surtout la perte de revenus, en fait, qui nous met dans des situations très précaires. Donc, c'est ce que j'ai hâte de connaître, là, exactement, combien ça donne en argent.
Justement, cette mesure va entrer en vigueur en septembre. On annonçait que c'était rétroactif, bon, jusqu'au 1er avril 2016. Mm. Avez-vous des craintes d'ici là? Avez-vous des craintes qu'on fasse marche arrière sur différentes annonces qui ont été faites? Ou au contraire, on sait déjà que c'est confirmé, que les acteurs se mettent en branle pour pouvoir oui. soutenir les familles? Comment ça se passe?
Bien, nous, premièrement, on reste en contact avec eux. On ne fait pas juste leur dire « OK, salut, on se revoit en septembre ». Je veux dire, on reste en contact, on va surveiller de près les développements. Puis, moi, je suis confiante quand même parce qu'ils nous ont assuré que c'est déjà entériné par le Conseil des ministres. C'est canné, comme on dit, là, ça peut pas, ils peuvent pas revenir en arrière. C'est vraiment un engagement clair et confirmé. Mais, vraiment, justement, les modalités, les détails de certains chiffres, tout ça, le travail n'est pas fini non plus. Donc, il ne faut pas lâcher prise, là. Il ne faut pas complètement dire, OK, tout est beau, tout est réglé. Mm-hmm. Mais j'ai quand même confiance. Je veux garder cette confiance que ça, au moins, c'est confirmé. Puis, il reste juste à revoir les détails, disons. Là.
Oui. En terminant, cette annonce a quand même fait suite. Ça a pris quelques semaines avant d'avoir quelque chose de concret à se mettre sous la dent. Mais elle a fait suite, entre autres, à votre passage à Tout le monde en parle, à l'émission du 14 mars, qui était en même temps que le ministre de la Santé, Gaétan Barrette. J'aimerais qu'on termine avec ce segment. Je crois que ça a beaucoup de poids. Avez-vous remarqué si votre passage à une émission qui est aussi regardée que tout le monde en parle, votre présence sur les médias sociaux qui est très importante, que vous rejoignez facilement la population à ce niveau-là, est-ce que vous avez trouvé que ça a aidé à accélérer ce mouvement-là? Est-ce que vos demandes ont peut-être été entendues plus rapidement grâce à ça?
Bien, je pense que oui, en fait, c'est clair. Parce que si on n'avait pas été sur le plateau en même temps que Gaétan Barrette, je pense pas qu'on aurait réussi à le rencontrer.
Avant-là, c'était un beau hasard.
Ben, c'était pas un hasard. C'était complètement prévu par l'équipe de Tout le monde en parle, de nous mettre sur le plateau en même temps que lui. En fait, donc ça faisait très longtemps que Tout le monde en parle voulait nous inviter. On les avait déjà approchés comme à la fin de la saison précédente. Ils avaient dit oui, on voudrait vous inviter. On peut pas, il reste juste 3 émissions. En tout cas, peu importe les détails, mais ils nous avaient gardé en tête. Puis là, à ce moment-là, il y avait eu plusieurs reportages en cascade dans les médias, Journal de Montréal, TVA, LCN, peu importe, là, sur une famille, entre autres, en Estrie, d'un enfant lourdement handicapé. Il y avait comme un intérêt médiatique vraiment comme bouillonnant, là. Donc, là, ils ont jugé que c'était le bon moment pour nous faire venir sur le plateau et Gaétan Barrette était là et ce n'était pas du tout un hasard, justement. Donc, oui, ça a fait avancer les choses. Je pense que déjà, il y avait un comité qui était en place, justement, sauf que ça aurait pu prendre des années. Et là, au lieu de prendre des années, tout d'un coup, ça a pris quelques semaines. Donc, clairement, ça a fait une différence, c'est sûr.
Est-ce que la population est plus informée de vos situations, de ce que vous vivez? Avez-vous remarqué ça?
Ben oui, je pense que oui, parce qu'il y a des gens des gens de la population générale qui ont eux-mêmes aucun contact avec des enfants handicapés qui nous en parlent ou qui, dans certains cas, qui disent « Ah oui, parents jusqu'au bout, bon, ils connaissent le nom, ils connaissent davantage nos situations. Ça a clairement, je pense que l'offensive de sensibilisation de la population a fonctionné, vraiment. »
Anouk Lanouette-Turgeon, on est très heureux de voir que ça a débloqué rapidement. Félicitations pour cette petite victoire du mouvement Parents jusqu'au bout. On suppose que vous allez garder un œil ouvert sur ce dossier d'ici septembre et on sera ravis de suivre les développements à vos côtés. Merci de nous avoir parlé aujourd'hui.
Merci beaucoup pour votre intérêt pour la cause. Et oui, on reste sur le dossier sans faute.
Merci, au revoir.